Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire,
bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette qui vous accompagne pour cette dernière de la semaine. C'est bon pour la santé sur Canal M. Eh bien, 14 novembre, journée mondiale du diabète. Et avec cette augmentation du diabète de type 2, notamment dans les pays industrialisés, la sensibilisation est d'autant plus importante. Le diabète, qui est une maladie qui touche 830 000 Québécois, un chiffre, oui, effarant, un gros chiffre. Mais en même temps, le chiffre, moi, qui m'effraie le plus, qui m'interpelle davantage, c'est le 250 000 personnes qui ignorent qu'ils vivent avec la maladie faute de symptômes apparents, parce que le diabète, c'est aussi un mal silencieux, une maladie chronique qui peut, malgré si elle est grave, là, c'est une maladie grave, mais qui peut bien se contrôler. Aujourd'hui, parce que le diabète est la première cause de cécité chez les adultes de moins de 65 ans, on va parler des effets du diabète sur la santé oculaire avec le docteur Jean-Pierre Chartrand, lui qui est ophtalmologiste, mais également plus précisément de la rétinopathie diabétique, qui est une complication oculaire du diabète. Mais d'abord, vivre avec le diabète, c'est un défi de taille, c'est une source de stress, ça demande de la gestion hein, quand on pense aux soins que ça demande, également de l'adaptation, autant pour la personne atteinte que pour ses proches. J'en parle dans quelques instants avec Serge Langlois, lui est président-directeur général de Diabète Québec. Bonjour, M. Langlois.
Bonjour.
Grosse journée aujourd'hui.
Une grosse journée, fort occupée, oui.
Mais nécessaire.
Bien, en fait, on est bien content parce que, justement, vous voyez les chiffres, ils sont inquiétants, ils sont alarmants. Et malheureusement, ça ne cesse de s'accroître tout le temps. Et à quelque part, un jour, il va falloir qu'on se pose des questions. Quand on est rendu avec 10 % et plus de la population qui est atteinte d'un problème de santé, il me semble qu'on devrait intervenir de façon un petit peu plus coriace que ça.
Oui, et que ça touche autant les enfants, les adolescents, les personnes âgées. Et ça ne fait pas de différence, là, peu importe le sexe ou le contexte social.
Malheureusement, c'est fort démocratique, le diabète. Ouais. Je veux dire, ça touche partout, riches, pauvres, autant les hommes que les femmes. Ça, les enfants, les personnes plus âgées, évidemment, ont plus de risques de développer le diabète. Mais ça, c'est vraiment tout le monde qui est à risque.
Quand on reçoit un diagnostic de diabète, et c'est à ça que je m'intéresse avec vous aujourd'hui, Serge Langlois, ça change la vie, bien sûr. Ça peut être, j'imagine, difficile d'assumer la maladie. Ça amène du stress. Qu'est-ce que ça change? Là, bien sûr, on pense à tous les soins, mais qu'est-ce que ça change, un diagnostic de diabète dans la vie?
En fait, souvent, les gens... Le diagnostic du diabète ou d'un autre problème de santé chronique, donc, qu'on va avoir jusqu'à la fin de nos jours, c'est un choc. C'est un choc majeur dans la vie des gens. Là, tout à coup, les gens ont l'impression que tout va s'effondrer, que la vie, ça sera plus agréable. Avec tous les mythes aussi qui viennent, on ne pourra plus manger de dessert, ça va être plate. Non, c'est pas vrai. Mais nous, à Diabète Québec, une des raisons pourquoi on existe, c'est justement parce que, un peu comme pour les alcooliques anonymes, la personne, à ce moment-là, elle a plein de questions, mais elle se sent tellement seule dans sa tête.
Ouais.
Puis elle se sent coupable, alors qu'elle n'est pas coupable. C'est d'abord et avant tout génétique. Alors, on ne peut pas être coupable d'avoir des gènes, mais il y en a qui se réveillent plus facilement que d'autres. Et le diabète, c'est le cas. Et à quelque part, la personne va dire, « Est-ce que tu es diabétique, toi? Mm-hmm. »« OK, bien, je vais te parler de quelque chose. Ouais. » Et ça, c'est important, ce genre de lien-là, parce que oui, c'est un choc majeur. Et vous savez... On voit souvent même des divorces, des séparations et tout ça, parce que l'autre personne, qui, elle, n'est pas diabétique, n'est pas capable de l'accepter.
Oui, oh oui. Donc, vraiment, un branle-bas de combat auprès du conjoint, de la vie de couple et de la vie familiale.
Oui, les gens ne s'imaginent pas à quel point c'est fréquent. On pense que oh, c'est des cas d'exception, tout ça. Non, 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 non. C'est fréquent. Les gens ne sont pas capables d'accepter que l'autre va... peut-être avoir une différence. Parce qu'on se comprend, là, c'est le pancréas qui n'est pas pareil. Mm-hmm. Le reste est tout pareil.
Ouais.
Mais malheureusement, on a dans notre tête tellement de mythes et de croyances populaires qui sont coriaces, elles aussi.
Oui. En même temps, vous avez dit quelque chose, Serge Langlois, la personne qui reçoit un diagnostic de diabète se sent seule, mais il y en a 830 000 autres au Québec à se rappeler tout de même. Et Diabète Québec est là pour offrir... Votre site, d'ailleurs, est très, très bien fait. Hein? Offre des outils extrêmement concrets. On va en parler aussi aujourd'hui. Je voyais... Et ça m'a quand même sensibilisée. Je ne pensais pas qu'il y a aussi toute la notion du stress qui s'avère être là, être bien présent quand on reçoit
stress,
un diagnostic.
Rôle important, vous savez. Et dans la vie, même des jeunes couples maintenant, les enfants à la garderie, on court du matin au soir. On va mener les enfants, on s'en va travailler. Il y a du stress pour le travail et tout ça. On recourt pour aller chercher les enfants. Alors là, il y a le soccer, il y a le baseball, il y a le hockey, il y a toutes sortes d'activités. Alors, qu'on a vu apparaître depuis 10-15 ans? Des commandes à l'auto. Parce qu'on n'a plus le temps de s'asseoir puis manger à une table. Alors, on mange sur le pouce comme ça. Tout est lié au stress et donne justement la porte ouverte à une alimentation qui n'est peut-être pas saine et équilibrée, qui n'est pas bien balancée. Et on ne prend plus le temps de se parler et de faire ouf.
Est-ce que le stress a une incidence sur le taux de glycémie?
Énorme. Mm-hmm. Énorme. Et pour les gens, bien souvent, dès qu'on les sort de ce contexte, par exemple, on va prendre des gens et on va les hospitaliser pendant 2 ou 3 jours. Tout à coup, les glycémies, les taux de sucre dans le sang, s'ajustent tout à fait bien. Oui. Mais malheureusement, dès qu'on les remet dans la vie courante, pouf, c'est reparti.
Mais c'est un cercle vicieux parce que si cette maladie amène un stress, mais que le stress nous rend davantage malades, à un moment donné, il faut le briser. Justement, on fait comment pour mieux gérer le stress ou l'anxiété générée par la maladie?
Ah, il y a toutes sortes de façons qu'on connaît. Ça peut être par l'exercice, justement, de réussir à le faire sortir au moins, de dire que on dit aux gens, allez marcher une petite demi-heure en revenant le soir. Bon, bien, ça, déjà là, on évacue une partie de ce stress-là. Le stress de vivre avec ce mot diabète et tout ça, avec un peu d'éducation sur le problème de santé, comment on peut le prendre en charge, on va réussir, je pense, à annihiler passablement ce bout-là. Mais c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui l'acceptent jamais, qui vont toujours être en déni, donc de dire non, moi je suis pas diabétique. Vous savez, j'aime jouer au golf. Ben, on voit l'âge des gens qui sont membres dans un club de golf. Hein? Ils sont dans une clientèle à risque élevé. Ben, croyez-vous que je connais une seule personne qui m'a avoué qu'elle était diabétique. Mmh. Les autres sont tous, j'ai un petit peu de sucre, là. C'est un petit peu élevé. Là.
Et même en sachant personne que vous êtes le président directeur général de Diabète Québec.
Oui. Ouais. On ne veut pas l'admettre. C'est difficile à accepter, ce mot-là.
Mais pourtant, c'est important d'accepter la maladie.
C'est la première étape.
Oui.
C'est la première étape parce qu'il faut le reconnaître, il faut l'accepter puis dire, regarde. On est chanceux avec le diabète, si j'ose dire. On peut faire quelque chose. On peut agir sur le problème. Alors, tu dis, écoute, c'est soit le diabète ou c'est toi qui vas gagner.
Mm-hmm.
Alors, aussi bien que tu mettes toutes les chances de ton côté, que tu apprennes comment gérer, c'est qui cette bibitte-là? Là? C'est qui cet adversaire-là avec qui auquel tu es confronté? Puis de dire, qu'est-ce que je peux faire pour éviter les complications ou en tout cas avoir le plus de chances de les éviter?
Vous parliez de la difficulté des gens d'avouer cette maladie-là. Est-ce que vous diriez qu'il peut être bien d'être accompagné, soit d'un spécialiste de la santé, un psychologue, par exemple, si justement on n'est pas capable d'en parler à nos collègues de golf, peut en parler à un spécialiste?
Bien, vous savez, un jour, c'est navrant ce que je vais vous dire, mais un jour, je suis à Québec, au ministère de la Santé, et j'essaie d'expliquer le besoin de psychologues dans le diabète.
Mm-hmm.
Et on m'avait dit, bien, monsieur Langlois, le diabète, c'est pas de la maladie mentale.
Oui.
J'ai dit, vous n'êtes pas diagnostiqué encore. Attendez.
Oui. La place que ça peut prendre dans la tête également.
Exactement. Ouais. Et c'est pas, comme on disait que c'est pas facile à accepter, tout ça. Bien, il faut l'accepter, mais 365 jours par année. Alors, c'est facile, quelque part, là, au bout de 6 mois et tout ça, tu dis, regarde, j'en ai assez, Alors, ça prend de l'accompagnement. On a maintenant des centres d'éducation pour les personnes atteintes dans des hôpitaux, des C3S, des choses comme ça. Mm-hmm. À Diabète Québec, on a tout un secteur d'éducation avec des diététistes, des infirmières, et ça s'appelle Diabète Aide, ça le dit bien. On a la ligne Info Diabète qui est gratuite pour toute personne qui veut parler avec un professionnel de la santé chez nous. C'est 1-800, puis on parle. Mais à quelque part, là, ça ne se fera pas tout seul. Ça va demander de l'aide. Et le médecin est là, lui, pour le curatif, donc pour soigner.
L'aspect médical.
Mais des groupes comme le nôtre vont justement pallier à ce manque qui est là et qui est important.
Mais peut-être que c'est si difficile d'en parler parce qu'il y a encore énormément de mythes autour de la maladie.
Ah, et de préjugés, de discrimination, c'est fou. C'est fou. Même à l'école, vous savez, à chaque rentrée scolaire, on doit, nous, faire des pieds et des mains pour réussir à ce que des enfants soient acceptés dans les classes normales. On a eu, dans le milieu de travail, plein de discriminations là-dessus. Les gens entretiennent toutes sortes de mythes sur le diabète. Et de dire, ah, ben c'est trop dangereux, cette personne-là va faire des hypos, va manquer de sucre. Puis ça, tu dis, oh, on se calme, ça se gère. Il y a des appareils, il y a des trucs. Alors, mais oui, il y a beaucoup de discrimination.
Notamment, on parle de soins et je trouve ça intéressant, juste, bon, avec le progrès de la médecine, les appareils, les traitements, on a vu beaucoup d'avancées. Est-ce que justement ça change pas? Parce qu'on a cette espèce de vieille image du diabétique qui se pique, bon, la seringue, ça nous fait peur, mais tout ça, ça a énormément changé.
Ah oui, ça s'est tellement amélioré, c'est très agréable. On peut avoir notre taux de sucre n'importe quand, maintenant ça prend 5 secondes. À l'époque, c'était compliqué. Vous savez que le grand-père dans la famille était un médecin de famille en région. Bien, à cette époque-là, pour diagnostiquer le diabète, le médecin devait goûter à l'urine du patient pour voir si ça goûtait sucré.
Oui. Et ça fait pas si longtemps que ça.
Ça fait pas si longtemps. C'était à l'époque d'une vocation, par exemple. C'est pas évident. Bien, maintenant, on a des appareils et les gens se promènent avec l'appareil, il n'y a pas de problème. On peut... La même chose pour les seringues, qui étaient longues comme ça, puis qui avaient des grosses aiguilles et qu'on devait laver et aseptiser à l'eau bouillante. Maintenant, ça a l'air d'un stylo. Toute petite aiguille. Et l'insuline aussi, on appelle maintenant l'insuline humaine tellement que c'est pareil. Alors, non, au moins, c'est merveilleux pour ça. Ça s'est amélioré considérablement ces dernières années.
Je m'adresse maintenant, je reviens sur les mythes, en fait, et je me rapporte à votre site encore, Diabète Québec, où on étale une panoplie de mythes sur le diabète, entre autres, la personne qui est confrontée lors de repas, on est en visite, la personne nous offre du dessert, on refuse, ben non, ça te fera pas de mal, juste une fois, juste un petit morceau. Comment on peut expliquer à nos proches, comment vraiment les impliquer dans cette adaptation-là, ce processus?
Quand on peut, parce que c'est pas toujours possible. Il y a des situations où on est, par exemple, à Noël, quand on se retrouve dans une soirée de famille où il va y avoir de la dinde, de la farce, des pommes de terre, de toutes sortes de trucs, et les gens vont dire « Ah, j'ai préparé tout ça. Ah, ben là, je sais pas pour toi, hein, parce que toi... » Je te dis « Donne-moi la même chose que les autres. »
Ah oui, OK.
Moi, je vais le calculer. Mm-hmm. Parce qu'il faut apprendre à calculer qu'est-ce qu'il y a dans son assiette. Alors, on mangera peut-être pas toutes les pommes de terre. On mangera peut-être pas toute la farce. Mais on va en manger un petit peu de là, un petit peu de là, puis on va s'en garder peut-être pour le dessert. Mm-hmm. On va apprendre à calculer le sucre. On a besoin de sucre. Tout le monde a besoin de sucre. Ça, c'est une des choses qu'on pense quand la personne diabétique dit « Regarde, elle mange du sucre. » Non, non. On a besoin de sucre. Le tiers du sucre, c'est pour notre cerveau. Mais en plus, c'est qu'on ignore que c'est pas juste du gâteau forêt noire du sucre. C'est du pain.
Ouais,
c'est des pommes pâtes, de terre, c'est des pâtes. Alors, tous ces féculents-là, pour se gérer en sucre, il faut donc apprendre, et ça c'est une des rançons du diabète, il faut apprendre à calculer tout ça dans son assiette au quotidien.
Et se laisser le temps aussi de le faire, d'apprivoiser ce changement-là.
Et c'est pas facile parce que ça prend du temps.
Oui. Est-ce que l'on observe chez les personnes qui souffrent de diabète une plus grande incidence de dépression ou de troubles anxieux?
Malheureusement, ça arrive souvent. Ça arrive souvent parce que, justement, on n'a pas tous et toutes la même façon de réagir aux obstacles de la vie puis aux aléas. Alors, oui, ça arrive. On le voit. Ou au début, ou un peu plus tard,
mm-hmm.
où là, la personne se décourage.
Ouais.
Ce qui est le plus dramatique, c'est pas tellement toujours au niveau dépressif, c'est que la personne envoie tout promener à un certain moment.
Ah oui. Le traitement.
Oui. Ouais. Alors, elle décide que, ah ben tant pis, je n'ai qu'une vie à vivre, puis je vais la vivre comme je veux.
Envoyer la tarte au sucre.
Oui, et les gens exagèrent, évidemment, ouais. De l'autre côté. Et malheureusement, elle se retrouve à l'urgence, hein, dans ouais. un état lamentable, où parfois, carrément, elle perd la vie. Hein, ça va jusque-là. Hein.
Mm-hmm.
On ne se rend pas compte, mais quand vous parliez tout à l'heure des reins, tout ça, ben, c'est la première cause de dialyse rénale. C'est ouais. la première cause d'amputation qui n'est pas liée à un accident.
Oui. Mm-hmm.
C'est la première cause de tellement de problèmes de santé.
De cécité, tout à l'heure.
De cécité. Si vous n'êtes pas né avec ce problème-là, bien, c'est la première cause. Et 80 % des diabétiques vont se retrouver avec des complications cardiovasculaires plus ou moins importantes, mm-hmm. voire des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux. Encore dans ma famille, l'autre jour, j'ai un oncle qui a été diagnostiqué parce qu'il venait de faire un accident vasculaire cérébral. Et on lui a dit, bien, t'es diabétique.
Oui.
Il ne le savait pas.
Mais ça n'avait pas été diagnostiqué.
Ouais, ben non.
Oui.
Mais non.
Le temps file, Monsieur Langlois, mais je veux revenir sur ce que l'on disait en tout début. Parce que, notamment chez le diabète, là, quand on parle de diabète de type 2, ça tend à augmenter beaucoup. À quel moment il faudra s'arrêter? Qu'est-ce que les spécialistes de la santé entrevoient pour justement stopper, arrêter cette genre de pandémie internationale?
Oui, l'Organisation mondiale de la santé l'a désignée comme une pandémie. En fait, il va falloir qu'un jour, ici au Québec, c'est un bel exemple, qu'on cesse de jouer à l'autruche et de dire « ben non, il n'y a pas de problème de diabète ». C'est sûr qu'il n'y a pas de problème de diabète. Personne ne va entrer à l'hôpital pour une diabétonite aiguë, ça n'existe pas.
Ben non, c'est ça.
Ils vont rentrer, alors ils vont être des statistiques en ophtalmo, en cardio, en tout. Alors, là, on a un problème parce qu'on n'a pas de stratégie pour prendre en charge le problème puis dire, ben voici, on va le contrer. On sait exactement ce qu'il faudrait faire, mais on préfère jouer à l'autruche et on me l'a dit carrément de dire, ah oui, mais vous vous rendez compte le nombre de personnes qu'il va falloir qu'on s'occupe, là?
Ben oui, 830
000 et plus. Ben oui, il va falloir qu'on s'en occupe. Ouais. Attendez pas que ce soit un million parce que dans pas longtemps, ça va être un million.
Oui, parce que si on regarde les chiffres, là, juste de quelques années précédentes, on parlait déjà de centaines de moins de personnes. Là, je veux dire, les chiffres n'étaient pas autant élevés, autant gonflés.
Il y a 10 ans, là, je vous aurais dit, il y a 5 % des personnes, des Québécois et Québécoises atteintes. Bon, bien, on a plus que 10 % déjà.
Oui.
Alors, dans 10 ans, on serait rendu à 15 ou 20 %.
Et on sait ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on doit faire, Serge Langlois?
Bien, on doit intervenir, premièrement, tenter de prévenir par faire du dépistage puis aller chercher les gens qui sont déjà diagnostiqués pour prévenir les complications.
Oui.
Mais aussi de changer les habitudes de vie des gens. Ça, on y travaille déjà
oui.
Pour que les gens s'alimentent plus sainement, de façon plus équilibrée. Cesser de... Vous savez, les portions qu'on nous sert au restaurant, puisque ça tombe partout sur la table tellement mm-hmm. qu'il y en a là, dans mm-hmm. l'assiette, bien, c'est pas nécessaire. Qu'on nous serve peut-être de meilleure qualité et moins.
Ouais.
Mais quelque chose qui est raisonnable, de prendre des habitudes de vie, de marcher, de ne pas toujours se battre pour avoir la place à côté de la porte là, ouais. au centre d'achat.
On parle d'un outil très technologique qui est l'éducation.
Voilà.
Et je laisse le www.diabète.qc.ca sur notre site, un formidable outil justement pour défaire les mythes, pour avoir plein d'outils très, 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 très concrets. Serge Langlois, vous êtes le président directeur général de Diabète Québec. En cette journée mondiale du diabète, ben, bonne journée, merci beaucoup.
Ben, merci, si.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial, canal, _M.
Bonjour, Dr. Chartrand.
Bonjour, Marianne. Ça va bien?
Ça va bien, vous-même?
Oui, ça va bien. Merci beaucoup. Je suis sur la route en ce moment, mais je vous entends très, très bien.
J'espère que vous êtes prudent, Dr. Chartrand.
Très prudent. journée du diabète.
Journée du diabète qui peut être responsable de plusieurs problèmes visuels lorsqu'il est mal contrôlé. C'est quoi le lien entre diabète et troubles oculaires?
En fait, le diabète est une des principales causes de cécité dans le monde en ce moment. Et comme on vous disait un petit peu plus tôt, je crois que le diabète a atteint une proportion d'épidémie.
Oui.
C'est incroyable. Moi-même, ça fait 32 ans là, que je fais la pratique de l'ophtalmologie. Et je dois dire que dans les 10 à 15 dernières années, il y a une croissance épouvantable de diabète. Et le diabète, on le sait, c'est une maladie vasculaire. Mm-hmm. Et le trouble oculaire s'appelle rétinopathie diabétique. C'est-à-dire que cette couche-là de l'œil qui assure la vascularisation adéquate du tissu de la rétine de l'œil, ces vaisseaux sanguins-là sont un peu déficients.
Okay.
C'est-à-dire qu'à cause du taux de sucre dans le sang, il y a une extravasation, c'est-à-dire qu'il coule. C'est comme, si vous voulez, un voyau d'arrosage qui a des trous dedans. Alors, le voyau d'arrosage avec des trous dedans, tout va se répandre, le liquide du voyau. Donc, c'est la même chose dans la rétine. Il va y avoir des hémorragies et du plasma. Et ces choses-là dans la rétine vont créer un peu d'enflure, d'édème.
Okay.
De telle sorte que la personne, tranquillement, a l'impression de voir à travers une fenêtre givrée.
Mm-hmm. Donc, c'est flou.
C'est flou, exactement. C'est la fin. Et la difficulté dans tout ça, c'est que quand souvent ces gens-là atteignent un niveau de vision très diminué qui leur nuit dans le travail, dans la vie de tous les jours, qui diminue leur champ de vision, il est déjà quelquefois déjà très avancé cette rétinopathie-là.
Mm-hmm.
Alors, c'est d'où vient l'importance, évidemment, d'avoir des examens de l'œil, des examens médicaux de l'œil qui peuvent être faits soit par un ophtalmologiste, un médecin, ou aussi en optométrie, définitivement, c'est très important qu'il soit vu de façon régulière. Quand je dis régulière, c'est une fois par année, un peu plus ou un peu moins, dépendant de la situation, dépendant de l'hérédité, s'il y a du diabète dans la famille, et dépendant si des gens ont des notes des changements au niveau de la rétine, évident.
Est-ce que la rétinopathie diabétique amène nécessairement à la cécité?
La cécité causée par la rétinopathie diabétique, une vraie cécité, c'est quand même pas fréquent. Là.
Okay.
Au Québec, c'est quand même, on pourrait dire le terme même rare. Parce qu'à un moment donné, on a l'équipement ici, on a un système médical qui est quand même, qui se tient très, très, très bien au fait des dernières nouveautés. Mm-hmm. Et il y a des traitements qui peuvent être faits et tout. Alors, la cécité, non. Mais ça nuit beaucoup dans une vie familiale, dans la vie de travail, dans la vie de tous les jours.
Mais j'imagine que, c'est un petit peu votre contexte, là. Vous êtes en voiture. Est-ce qu'on peut conduire, par exemple, si on souffre de rétinopathie diabétique?
Ça dépend de l'atteinte. Ça dépend de l'atteinte de l'œil. Si, au Québec, pour être capable de conduire une voiture, il faut avoir un champ de vision bon, adéquat, mais surtout avoir une acuité visuelle d'au moins 20-50.
Okay.
Alors, si cette rétinopathie diabétique-là cause un édème maculaire, disons, important, où le patient voit moins que 20-200, par exemple, mais qu'avec des traitements, il arrive à 20-40, 20-50, ça va. Alors oui, je dirais que la majorité des diabétiques peuvent conduire la voiture.
OK. Si je comprends bien, Dr. Chartrand, la rétinopathie diabétique, ça se traite bien parce qu'il y a des opérations possibles.
Il y a le laser,
okay.
Premièrement, qui peut aider en traitant des endroits très précis au niveau de la rétine, qu'on repère grâce à des tests qui sont ici très précis. Il y a aussi des injections de médicaments intraoculaires qui, si vous voulez, diminuent l'apport de certaines enzymes provoquant la vascularisation inadéquate de la rétine.
OK. Est-ce que la rétinopathie diabétique est la seule maladie oculaire liée au diabète ou il y en a d'autres?
c'est principalement la rétinopathie diabétique, parce que je le répète, le diabète est une maladie qui est vraiment vasculaire.
Mm-hmm.
Mais une chose que j'aimerais bien rajouter, c'est que pour prévenir la diminution ou la perte de vision causée par le diabète,
oui,
le médicament le plus important demeure le changement des habitudes de vie.
Oui.
Moi, quand j'ai un diabétique, qu'après, disons, ils ont diagnostiqué par leur médecin, leur interniste, tout de suite, ils me sont référés pour un suivi adéquat et annuel. La première chose que je leur demande, c'est, vous savez, c'est quoi le meilleur traitement ou la meilleure prévention du diabète? C'est l'exercice physique. Alors, je recommande toujours 35 à 40 minutes de marche rapide. C'est suffisant. Un paire de souliers de course, c'est tout ce qu'ils ont besoin. 7 jours par semaine, incluant la fête des mères, la journée du diabète ou même le jour de l'an.
Il n'y a pas d'excuse.
Alors, il n'y a pas d'excuse, voilà. Mais de le faire de façon régulière. Y aller deux fois au gym pour 3 heures, c'est bien. Mais rien ne remplace la routine. Il faut que ça fasse partie maintenant de leur vie. Deuxièmement, la nutrition. La diète, c'est bien, mais diète, ça fait déjà un peu péjoratif. Moi,
oui,
j'aime bien le terme nutrition. Nutrition veut dire, bon, du poisson, à cause des oméga-3, 4 fois par semaine, sous différentes formes, au lunch, au dîner. 3 légumes par jour, dont au moins un verre, et toujours vérifier, très important, l'indice de masse corporelle, et le maintenir à 25. Si vous avez l'Internet, vous allez le voir, 24-25, dont ne pas avoir d'obésité. Souvent, les obèses mangent seulement 2 fois par jour, et évidemment, la première chose, j'ai oublié de le dire en tout en partant, la cigarette.
Bien sûr.
La cigarette est la principale cause de problèmes de vision.
Et la prévention passe toujours par un examen oculaire, ben au moins de façon annuelle.
Primordial.
Docteur Jean-Pierre Chartrand, merci beaucoup. Je sais que vous êtes vous-même un grand marcheur. Vous me l'aviez confié lors de notre dernière rencontre. Ben, vous êtes un très bon modèle pour nous. Ben, ça m'a fait plaisir de vous reparler aujourd'hui.
Marianne, anytime. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. Bonne journée. Eh bien, c'était Rémi Hermoso, Jean-Sébastien Laliberté à la régie. Merci beaucoup, les garçons. Marianne Paquette au micro. Merci beaucoup d'avoir été là tout au long de cette semaine. Je vous rappelle qu'on est en rediffusion à 17h pour me joindre mpaquette@vusezvoix.com ou le 1-800-361-0635, poste 220. Toujours un plaisir de vous lire ou de vous entendre. Je vous souhaite une très, très belle fin de semaine. Je vous embrasse. Bye-bye, à lundi.